48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 83e mag sur 48 FM, un nouveau mag avec Nico qui est avec moi. Salut Nico.
Salut.
Aujourd'hui pour ce mag, eh bien deux sujets avec un premier qui va concerner l'appel à projet européen Leader 2014-2020, donc qui vient de sortir cet été. Pour en parler, ici présente Monique Delagrange, chef de projet du Pays des Sources en Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Également qui révise ses fiches, Marion Chanéac, animatrice gestionnaire du Galter de Vie. Bonjour Marion.
Bonjour.
Voilà, et dans la deuxième partie, il sera question de clause d'insertion sociale dans les marchés publics. Donc une réunion se tenait ce matin à l'amphithéâtre du centre de gestion. Nous recevrons aux alentours d'une heure Sabrina Arnal, animatrice à la Maison de l'Emploi. Patrick Loquet, qui est l'un des précurseurs de ces clauses d'insertion sociale. Et peut-être Frédéric Dumortier, le directeur de la Maison de l'Emploi. On ne sait pas s'il sera présent encore ou pas, ce sera la surprise. Alors, on commence à parler de cet appel à projet européen Leader 2014-2020, donc qui fait suite à celui qui s'est tenu en 2007-2013. Peut-être pour commencer, savoir qu'est-ce qu'un projet Leader ?
Monique ? Alors, un projet Leader, c'est un projet qui se conçoit de façon participative. C'est-à-dire, c'est pas un projet qu'on fait seul, c'est un projet qu'on fait à plusieurs associations ou dans une association avec tous les membres actifs, et ou bien c'est un projet de plusieurs associations ensemble. Ça peut être aussi un projet porté par une collectivité ou de plusieurs collectivités.
D'accord, c'est-à-dire un projet leader, on parle de fonds européens, c'est ça ?
Voilà. Donc,
pourquoi leader ? Leader, ça veut dire quoi ?
Alors, je laisse la parole à Marion.
Leader, c'est liaison entre actions de développement de l'économie rurale.
Voilà.
Donc, ça concerne l'économie rurale, exclusivement.
Voilà, c'est un outil qui a été mis en place pour permettre de faire émerger des projets vraiment du territoire, de proximité, du local. C'est pas un projet qui... C'est vraiment les acteurs du territoire qui doivent le monter. C'est pas un projet qui est balancé ex machina et qui arrive comme ça. Non, c'est vraiment les acteurs du territoire qui le montent. Donc, et c'est quand on reçoit un projet, on vérifie qu'il y a vraiment cette origine-là sur ce projet. Et c'est vraiment un besoin du territoire, un besoin de la population qui est exprimé et pour lequel on va essayer de répondre. Après, il y a des complexités administratives. Il nous est demandé 1 euro de fonds locaux, c'est-à-dire soit du conseil régional, soit du conseil général, soit des collectivités locales. Et en contrepartie, le financement européen qui est appelé par ces fonds locaux, arrive.
D'accord. C'est sur 6 ans. Pourquoi 6 ans ? Ça veut dire que je monte un projet maintenant qui devra aboutir dans 6 ans, ou c'est une enveloppe qui est disponible pour ces 6 années ?
Alors, c'est une enveloppe qui est disponible pour ces 6 années. Cette enveloppe a été mobilisée suite à un appel à projet. Celui de 2007-2013 avait été déposé en janvier 2008. Il avait été monté de façon participative avec le territoire. À l'époque, c'était le Pays Gorges-Cévennes et le Pays des Sources. On a des instructeurs qui, en face, vérifient que cette candidature répond aux critères à la fois européens et, à l'époque, c'était la DRAF qui gérait ces fonds-là. Maintenant, ça sera la région, qui vérifie qu'on répond bien aux critères de l'appel à projet. Et donc, on immobilise un montant financier par rapport au projet que l'on sait qui va émerger du territoire.
D'accord. Concrètement, en fait, vous, pour répondre à cet appel à projet, vous allez expliquer, nous sommes un territoire rural avec plusieurs acteurs culturels, patrimoniaux, économiques, etc. Est-ce qu'il faut que vous ayez déjà les projets de ces acteurs en main, ou c'est plus une démarche globale de dire voilà, on a plusieurs possibilités de financement d'aider des associations et autres, et on vous propose de participer à ce projet LIDAR.
Alors, c'est un peu de tout ça. C'est-à-dire que là, ça fait partie de l'appel à projet. Ils nous disent, il faut que vous fassiez une analyse AFOM, ce qui s'appelle, c'est atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, ils nous demandent que ça soit fait de façon participative. Donc, on se rend sur le territoire. C'est-à-dire, là, il y a actuellement eu une réunion à Mende, une réunion à Villefort, une réunion à Badaroux. Ce soir, on est sur Grandrieu, d'accord. D'ailleurs, on dit à tous ceux de Grandrieu, venez mobilisez-vous pour venir à 20h30 hein, pour travailler sur cette matrice. Et une fois qu'on sait, à travers ces atouts et faiblesses, opportunités et menaces du territoire, on arrive ainsi à détecter les priorités du territoire. On leur demande quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est le problème pour vous qui est majeur.
Vos besoins, c'est ça ?
Et, oui,
enfin, qu'est-ce que tu appelles une priorité ? Parce que les priorités, en général, il y en a plein, quoi.
Oui, il y a des mais des fois, tu as des choses un peu plus prioritaires que d'autres. Tu as des choses un peu prioritaires qui te teignent un peu plus au foie que d'autres. Tu vois, tu as des priorités. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est la mobilité ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un médecin à côté de chez toi ? Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut qu'ils arrivent à graduer. Donc, ensuite, on va agréger l'ensemble des réponses qui nous auront été faites sur l'ensemble du territoire et on va définir une stratégie à partir de ces priorités. Cette deuxième phase, on va le faire aussi de façon participative. On va concocter une animation particulière avec Marion hein, pour arriver que ça soit assez ludique et sympathique à faire parce que vous voyez, j'utilise que des mots un peu barbares. L'Europe, c'est au niveau du vocabulaire.
L'Europe, c'est barbare.
C'est barbare.
C'est ce que tu es en train de dire.
On parle avec des langages difficilement compréhensibles. Donc, on essaie de vulgariser et de rendre accessibles tous les débats et de faire vraiment ressortir avec facilité les priorités du territoire, avec hein, les bases post-it, hein, comme toute animation de réunion, gommettes, paperboard, voilà, hein, c'est très basique. Mais à la sortie, on sait ce que veut la population, on sait ce que veulent les associations.
Et tout ça, ça doit rentrer dans le cadre européen, hein, c'est-à-dire que l'Europe a déjà défini elle, un cadre,
alors, effectivement,
c'est ça, dans le cadre du leader.
Au niveau européen, ils ont déjà défini des axes de travail. Je sais pas, peut-être Marion, tu pourrais leur dire ces termes.
Il y a le développement économique solidaire, la politique.
Alors développement économique solidaire, on comprend ce que c'est que le développement économique solidaire. Ouais.
C'est surtout la relocalisation en fait de l'économie dans les territoires ruraux.
C'est-à-dire en fait de réinventer un peu l'économie, monter des entreprises, de l'artisanat, etc. C'est ça ?
Oui, tout à fait.
C'est vraiment de réfléchir comment on peut ramener l'activité et l'emploi sur le territoire.
Après, l'autre axe, c'est l'attractivité et la vitalité des territoires. Donc tout ce qui est agritourisme, développement touristique, offre de services. Après, il y a une autre gouvernance alimentaire. Donc ça, c'est surtout les circuits courts, produits locaux. Et une croissance verte avec le changement climatique, tout ce qui est mobilité, préservation des ressources, etc.
On voit bien à travers toutes ces questions que c'est le développement durable qui est en prisme à toutes ces thématiques. Mais là aussi, on est avec des termes un peu barbares. Et il faut absolument, on essaie d'être au plus simple et de traduire tout ça pour que les personnes qui participent comprennent de quoi on parle et que c'est vraiment leur enjeu à eux.
Oui, et ce premier rendu, finalement, est extrêmement important.
Oui.
Et oui, parce que du coup, tous les projets après qu'on va vous proposer... Ouais.
Alors, en parallèle, systématiquement, on leur dit, mais est-ce que vous avez déjà des projets que vous réfléchissez, qui sont en gestation, qui risquent d'arriver en première année 1, année 2, année 3 ? Parce qu'il est important pour nous, dès que le dossier sera retenu, et je croise les doigts pour qu'il soit retenu dès le mois de mai, puisqu'on le dépose le 28 février...
En fait, ce projet... L'ensemble de ces propositions que vous allez agréger, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait l'ensemble du projet, du programme,
oui,
d'accord ?
Tout à fait.
Sur le plan du pays des sources.
Oui.
C'est ça ?
Mais à côté de ce programme, il y a la maquette financière. Pour définir la maquette financière, on a besoin de savoir exactement, à la louche, les projets qui pourraient...
Et leur coût. c'est ça ?
Et voilà, et leur coût... Parce
et donc que... ça fait une enveloppe budgétaire que vous allez proposer et sur laquelle va trancher à la fois l'Europe et la région, c'est ça ?
Tout à fait.
En disant, on a sur une base de 50 millions d'euros, on va vous donner 10 millions d'euros rien que sur la
Sur la programmation 2007-2013, on était à 1,3 million en fait.
1,3 million, voilà. D'accord.
Et là, on espère avoir un petit peu plus.
Et toute l'enveloppe a été dépensée
oui.
ou pas ?
Oui, enfin, pratiquement. Alors, on a les derniers comités de programmation, on en a un là en novembre, et on en aura un en janvier 2015 à peu près, pour d'accord. le dernier.
Les associations ne peuvent plus se positionner, finalement, si elles ont un projet en 2017 ?
La question.
Est-ce que les associations peuvent bien sûr.
Voilà, mais si elles ne sont pas venues vous voir au préalable et que donc elles ne vous ont pas proposé, ce n'est pas gênant de venir en 2017 avec un nouveau projet et vous arriverez à le...
C'est-à-dire que les... Oui. Alors par contre, là, tu n'as pas parlé d'un domaine qui est la culture, par exemple. C'est-à-dire que les associations culturelles ne peuvent pas prétendre à déposer des projets ?
Si, si, bien sûr.
Si, ça fait partie du développement économique.
Oui,
d'accord, développement économique ou... Ou le deuxième axe dont tu parlais,
c'est bien sûr
l'attractivité des territoires. C'est, ouais.
Vitalité. C'est la, ouais, puis c'est l'aménité du territoire. On peut pas vivre sur un territoire si la culture n'est pas présente. Et donc la culture, ça fait l'économie. C'est un élément de levier économique. Donc bien
et
sûr.
Et l'attractivité, ouais. Parce que s'il n'y a pas de culture, les gens ils viennent.
Et d'attractivité, tout à fait.
On le voit avec les Toubibou aujourd'hui, qui ont du mal à venir s'installer en milieu rural.
Ouais. Il faut qu'il y ait une offre culturelle, bien entendu, et qu'il soit en lien avec l'ensemble.
Et c'est le cas sur notre beau département, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Parce qu'il y a eu beaucoup de projets, non ? Les précédents, la précédente maquette, il y a eu énormément de projets culturels.
Oui, il y en a eu beaucoup. Ouais, beaucoup.
Sur la vallée du Lot, il y avait l'association Rue de Bottecroux qui a déposé des dossiers. Il y a eu l'association Stevenson qui a beaucoup travaillé pour
les scènes croisées avec le programme.
Il y a eu les scènes croisées avec le programme d'écriture. Il y a eu l'hiver nu.
Il y a eu 48 FM.
Ah, mais oui, il y a eu 48, on l'oubliait.
Il y a eu 48 FM à ses débuts, ouais.
Ouais.
Voilà, pour l'investissement.
À tous ses débuts.
Alors, ça peut concerner à la fois du fonctionnement, mais de l'investissement aussi.
Alors, ça dépend de la dépense qui est éligible. C'est au cas par cas, chaque opération, qui va nous permettre de définir, et on va l'écrire, en fait, avec les partenaires, en tenant avec le document de réglementation à côté, le document qui a été rédigé par la région pour vérifier ce que nous, on peut rendre éligible et ce qu'on ne peut pas. C'est, et puis, bon, eux vont, après, agréer ou pas agréer nos propositions.
D'accord.
On sait que sur le département, sur certaines aides européennes, il n'y avait pas assez de projets sur le territoire lozérien. Est-ce que vous espérez qu'on puisse en avoir davantage pour pouvoir récupérer le maximum de financement ?
Alors justement, c'est un peu le travail qu'on fait actuellement. C'est il faut de la population pour arriver à faire émerger les projets. Donc il faut la rencontrer. Il y a plusieurs façons de faire émerger des projets. Soit on fait rencontrer les gens ensemble, on provoque les rencontres, on provoque les projets. Soit on soutient des programmes qui vont dégager des projets derrière. Si je prends par exemple un programme, le pays d'art et d'histoire, au hasard, hein, je prends cette association.
Hasard, c'est jamais par hasard.
Non,
c'est pas grave.
Je prends le pays d'art d'hasard, je vois là.
Mais Monique, on sait très bien que tu adores le pays d'art et d'histoire, donc voilà, c'est normal, ça revient.
Ils font des bons projets.
Tout à fait.
Voilà, et donc il y a une animatrice qui derrière.
On salue d'ailleurs.
Nelly Lafont.
Voilà, bonjour à Nelly, qui derrière fait des propositions d'action de façon régulière. Des projets de qualité, je souligne, et qui rentrent tout à fait dans le... Donc le fait de soutenir ces actions et le fait qu'elles soient présentes et qu'elles dégagent à travers les actions et les programmes qu'elles amènent. Donc quand on soutient un programme, j'ai donné cette action, peut-être que j'aurais pu en trouver d'autres, mais voilà. Et ça dégage d'autres dossiers, d'autres projets. C'est plus simple quand il y a un animateur.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque à voir venir des associations, donc ce soir par exemple sur Grandrieux, de voir venir des associations qui expèrent dans votre programme et qui à la fin se retrouveraient à être non éligibles ? Est-ce que ça ne s'est pas déjà produit ? Est-ce que ce n'est pas un écueil ? Parce que Leader, c'est quand même une grosse machine. Il faut quand même dire aux associations qu'elles ne touchent pas l'argent tout de suite. C'est compliqué. Ouais.
Alors, déjà, il y a des associations qui ne sont pas éligibles, c'est celles qui ne sont pas localisées, qui n'ont pas leur siège social sur le territoire.
Donc là, sur le pays des sources, on ne fait pas partie du pays des sources, on ne peut pas prétendre
Si le siège social est à Montpellier, non.
D'accord.
Il faut que ce soit localement.
Ouais, ou à Paris, ouais. Ou parce qu'on
voilà,
a
ça, oui.
L'été, etc.
Après, aussi le but du pays des sources, c'est de les réorienter vers d'autres fonds s'ils ne peuvent pas avoir accès aux leaders. Donc il y a le FEDER, le FSE, le FEADER.
Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce programme Leader 2007-2013, savoir à peu près combien ça a touché d'associations ou d'institutions, Marion, de collectivités, Marion?
Il y a eu 83 projets en tout, dont 24 projets...
Donc 83 projets, attends, je te coupe, sur 6 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Enfin, non, parce que ça a attaqué qu'en 2009, le programme.
D'accord.
Nous,
donc,
c'était sur 2007,
mais... Sur 4 ans. 83, ouais. Oui.
Calcul, Nico.
20,7 projets par an.
Ouais. Non, parce qu'au début, on a vraiment eu un début très lent. Et après, vers la fin, on a eu beaucoup
d'accord,
de projets,
oui,
en fait, sur les dernières
moyenne,
années.
C'est une moyenne, ouais, c'est ouais. Pour savoir à peu près à quoi ça correspond.
Donc, ça fait 20 plus projets, d'un projet par mois, c'est
un
bien.
Par mois. Oui, oui. Ouais. Avec une masse de
1,3
millions d'euros. D'accord.
Et on a eu 24 projets de collectivités, donc mairie, communauté de communes.
Dans les 80?
Dans les 83, oui.
D'accord.
Et 59 projets d'associatifs. On a eu beaucoup plus d'associatifs, nous. Comparé d'accord. aux autres GAL qui, eux, en général, c'est l'inverse.
Oui, donc ça veut dire aussi qu'on a un tissu associatif qui est riche, qui est porteur de projets. Oui,
tout
c'est
à
ce
fait.
C'est ce que
ouais.
ça veut dire. Donc les gens sont beaucoup dans nos associations.
Ouais. Ah ouais, avec souvent quand même des petits montants de leaders.
Oui, alors ça. Mais ça, on l'explique parce que les associations sont aussi, ont des petits moyens. Donc elles ne peuvent pas s'engager ouais. à hauteur de 100 000 euros à ouais. chaque fois. Quoi.
Tout à fait, parce qu'il faut qu'elles avancent en fait la trésorerie.
C'est ça, sur au moins un an et demi, deux ans.
Ça dépend le temps du projet, en fait, déjà. Ouais.
Vous avez eu du monde à vos réunions, pour l'instant?
Une quinzaine de personnes oui. sur chaque réunion, à peu près. Mm.
Ah, finalement, c'est pas tant que ça pour un projet quand même aussi important pour le département.
Alors, on a commencé depuis 2013 à demander au territoire quels étaient ses besoins. Donc, en 2013, on a déjà réalisé 4 réunions thématiques sur l'ensemble du territoire. Plus, on a rencontré l'ensemble des collectivités, puisqu'on avait fait des réunions en regroupant les communautés de communes.
Donc déjà, elles n'ont pas à revenir, elles sont déjà au courant.
Elles sont, voilà.
Oui.
Bon, mais après, au milieu de tout ça, il y avait les élections, donc c'était nécessaire de recommencer. En plus, donc en juillet, on a eu l'appel à projet qui nous a précisé des informations, notamment les axes dont a parlé Marion. Donc il était nécessaire de revenir et de recadrer et d'affiner un peu tout ça pour pouvoir poursuivre. Donc on n'a pas fait la totalité, le compte de toutes les personnes qui ont été touchées en un an et demi, mais maintenant ça commence à faire du monde.
Ces réunions, vous les avez basées sur deux thèmes, sur deux phases. Il y a une première phase qui se termine où vous parliez du diagnostic, c'est ça. Et après, vous allez enchaîner sur la stratégie,
ouais.
et priorité. Donc diagnostic, c'est ce que vous nous expliquiez tout
voilà.
à l'heure. Stratégie,
l'état des lieux un petit peu.
Voilà l'état des lieux.
C'est ça. Ouais, ouais.
Et donc la stratégie et priorité, donc ça c'est pour le mois de novembre. Je vois la première le jeudi 13 novembre à 20h30 à Badarou. Stratégie et priorité, concrètement, ça veut dire quoi?
Eh bien, en fait, il faut savoir dans tous les besoins qui sont remontés vers lesquels la population souhaite que soit mis la majorité des financements. Quand on fait la maquette financière, à un moment donné, il faut dire je vais mettre 100 000 euros sur cette thématique et 200 000 sur l'autre, par exemple. Hein, c'est un exemple. Donc, on a besoin de pistes, on a besoin que la population nous dise, mais nous, on a ce type de projet qui peut arriver, on a pour nous, on estime que tout ce qui est paysager ou qualité de vie, ou circuit court, voilà, c'est prioritaire, centrer les investissements sur ce type de thème. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres outils pour établir un petit peu cette stratégie que simplement le rendu de ces réunions? Est-ce que vous avez des entretiens avec les élus locaux?
Alors, on a eu des, en 2013, on a eu des entretiens, une vingtaine d'entretiens avec notamment des associatifs, des organismes qui travaillent sur des domaines qui pourraient être, qui pourraient répondre à des besoins locaux. J'ai un souvenir.
Les chambres aussi.
Donc, les chambres consulaires ont été rencontrées. Il y a eu Lozère Énergie.
Donc, les chambres consulaires, pour nos auditeurs, c'est la chambre de métier,
et chambre, chambre de commerce.
Chambre d'agriculture, chambre d'industrie, chambre de commerce et chambre de métier.
Ouais, ouais.
On avait fait en fait un premier diagnostic. On avait aussi fait une première version zéro en fait, mais avec au niveau du territoire du Galter de Vie en fait. Donc c'est-à-dire le pays des sources et le pays Gorges-Cévennes. À part que là, on partirait vraiment sur le pays des sources, hein, enfin sur le périmètre du pays des sources.
D'accord. Donc on réajuste en ce moment. Voilà.
Et donc là, vous espérez une enveloppe de combien sur celui-là? Ce sera inférieur à 1,3 million ou...
Ah non, on aimerait un petit peu plus.
2 millions, quoi. 2 millions. Voilà.
On va demander. On va demander.
10 millions.
On va demander plus parce que.
Parce que nous sur 48FM, on a un super projet. Ça va vous coûter de blinde. Il faut le savoir, quoi.
Et alors, parce que à cette programmation, tout ce qui n'est pas sur le. En fait, tout ce qui n'est pas sur le FEADER, on le prendrait éventuellement sur le leader. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas ouvert, on le prend. On ne va pas chercher des fonds qui sont ouverts par ailleurs. Donc, par exemple, comme type de projet, les crèches, ne seront pas ouverts sur le FEADER. Ils pourraient éventuellement être ouvert sur le leader. Donc ça dépendra des besoins du territoire qui feront la maquette financière en fait.
Avant ça pouvait être l'un et l'autre. Et maintenant d'accord. C'est l'un ou
c'est
l'autre.
L'un ou l'autre, oui, pour pas qu'il y ait.
D'accord. Donc il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas se tromper parce que si on se trouve avec un projet qui n'est pas éligible au niveau régional, à ce moment-là, ben, on aura recours.
Alors
au
l'enveloppe
leader.
De la région, on la connaît, non? C'est de l'ordre de 50 millions d'euros?
Non, sur le FEADER, pour la mise en œuvre du leader, c'est de 40.
40
et sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Et après, ils vont retenir entre 12 et 16 groupes d'action locale. Et donc, nous espérons 2 millions, 3.
C'est la première année que la région gère ses fonds?
Oui, effectivement, c'est la première année. Donc, c'est une grande mutation, une révolution dans la gestion administrative de ces fonds. Donc, non seulement la région est obligée de se réorganiser et de s'adapter, mais nous aussi, sur le territoire, on va être obligé de s'adapter à ces nouveaux partenaires. Enfin, ils ne sont pas tout à fait nouveaux. Mais oui. Dans la gestion des fonds européens, bien sûr.
Ce que je vais vous demander, ce n'est pas plus facile, finalement, de s'adresser à la région qu'auparavant
Eh bien, avec l'État, ça se passait très bien. Mais bon, je ne vois pas pourquoi ça va se passer aussi bien avec la région. Hein.
Ils ont l'habitude quand même de gérer des fonds.
Ils géraient déjà des mesures. Ils géraient déjà des mesures. Donc,
oui,
il y a quand même une expertise au sein de la région pour ça.
Alors, imaginons maintenant un cas. Une association lambda qui remplit une fiche à projet, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez fait passer. Donc, elle remplit une fiche projet, vous consultez la fiche projet, vous lui dites « Ah ben, votre projet est intéressant, il va s'inscrire dans telle mesure ». Est-ce que ça appelle, donc, après, une aide de votre part pour le montage du dossier? Est-ce qu'il y a des financements complémentaires obligatoires à trouver sur ce projet-là? Est-ce que les associations sont épaulées? Enfin, comment ça marche pour une association lambda qui vient vous voir?
Pour une association du coup qui vient nous voir, on regarde déjà si le projet est éligible. S'il est, on regarde s'ils ont des cofinanceurs à mettre en face. Donc quand c'est des privés, il faut obligatoirement qu'il y ait un cofinancement public. Quand c'est public, ils peuvent appeler leur autofinancement. Après, si c'est éligible qu'ils ont le cofinancement, on leur aide à monter leur projet, on les aide complètement en fait.
Est-ce que ça appelle pas des cofinancements justement? Est-ce que c'est pas un bel intérêt? Par exemple, je monte un dossier, et le conseil général, je fais un appel au conseil général. Est-ce que le fait qu'il soit dans ce programme leader, le conseil général, ça lui donne pas une espèce de on va dire, d'intérêt supplémentaire?
Ah, si, si,
pour
tout
l'association.
À fait, ouais.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Parce que là, sur un projet, du coup, il y a 20% d'autofinancement. Et après, sur le prochain appel à projet, il y aura du coup 63% de FEADER et le reste en cofinancement, en fait. Parce qu'on est en région en transition. C'est pour ça qu'on a 63%.
Donc, au lieu de 50% précédemment, c'est ça?
55.
55, on est passé à 63.
Voilà.
Donc, il en reste moins. Il reste que 37% à trouver. En gros, sur ces 37%, on est encore obligé d'avoir 37% de cofinancement et combien d'autofinancement?
Sur 100%, il y a 20% d'autofinancement.
Minimum ou maximum ?
Minimum.
D'accord.
Et après, il y a les 80% qui sont répartis, 63%. Et...
D'accord. Et dans ces 20%, est-ce qu'il peut y avoir de la masse salariale ? Est-ce qu'il peut y avoir...
Non, on ne prend pas tout ce qui est nature, dans nature et tout ça. C'est vraiment de l'autofinancement propre.
D'accord.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a bien compris l'importance de se positionner dès maintenant pour avoir plus de clarté, que vous puissiez défendre au mieux...
Avoir les éléments pour rédiger,
pour réussir à obtenir le plus de financement possible. On rappelle donc, ce soir, vous êtes à Grand-Rieu, à la salle des fêtes à 20h30. On vous attend nombreux. Les réunions reprennent en novembre. D'ici là, on peut, j'imagine, quand même venir vous voir à Mende.
Tout à fait. Si vous souhaitez déposer des dossiers ou vous voulez des précisions... il ne faut pas hésiter à passer au bureau. Il y aura soit Marion, soit moi qui seront prêts à vous accueillir.
Ouais, juste une dernière question quand même. Il y a beaucoup de gens qu'on côtoie quand même dans ces émissions et puis à la radio et puis aussi par la Ligue d'enseignement. Beaucoup disent, mais de toute façon, ces financements, c'est fait que pour les grosses associations qu'il y a pas, que nous, de toute façon, on ne pourra jamais prétendre à ces programmes. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que finalement... Parce qu'il faut avoir un peu les reins solides, non, pour monter ces projets.
Oui, il faut quand même avoir l'autofinancement suffisant pour faire l'avance de trésorerie, en fait. C'est surtout ça le souci, parce qu'on payera, en fait, le leader paye que quand les autres cofinanceurs ont payé, quand le projet est terminé, sur facture acquittée.
D'accord. Donc ça dépend de la durée du programme et du projet.
Il faut bien vérifier que les dépenses qui ont été annoncées ont été respectées.
D'accord. Parce que il y a un suivi de trésorerie qui est très très important. Et d'engagement.
Oui.
Et après, il faut mettre des autocollants, comme dans notre studio, Nicolas.
Tout à fait, l'Europe s'engage en France.
Voilà, merci beaucoup. On réannoncera vos réunions de toute façon dès novembre. Celle d'aujourd'hui a été annoncée dans les informations locales. Et voilà, si vous voulez les contacts, on vous les donnera. N'hésitez pas à appeler Julia à la radio qui vous donnera les contacts sur ce projet. Merci beaucoup, mesdames. On va faire une pause musicale avant de passer à notre deuxième rubrique. Thank you.
48 FM Le Mag.
Allez, c'est reparti, deuxième partie d'émission. On va parler de clause d'insertion sociale dans les marchés publics avec une réunion qui s'est tenue ce matin dans l'amphithéâtre du centre de gestion. C'était organisé par la Maison de l'Emploi, justement, la Maison de l'Emploi. Encore elle, bien présente sur le territoire avec dans ses locaux, honneur aux dames, Sabrina Arnal, qui est, comment on peut dire, chef de projet à la Maison de l'Emploi.
Chargée de mission.
Chargée de mission.
Et son titre exact, c'est facilitatrice.
Facilitatrice. Bon, ben on expliquera pourquoi après. Le titre exact de Frédéric Dumortier, c'est directeur, il me semble.
C'est directeur, oui.
Directeur de la Maison de l'Emploi. Très bien, avec nous également aujourd'hui, M. Patrick Loquet, maître de conférences en droit et consultant dédié aux clauses sociales dans les marchés publics. C'est un peu votre combat de plusieurs années, cette clause d'insertion, M. Loquet ?
Ah, c'est un combat de 20 ans.
De 20 ans.
J'ai commencé en 1993.
Tu vois, et 20 ans,
donc quand on aime, on a toujours 20 ans, paraît-il. Mais bon, donc ça fait 20 ans de passion pour la clause sociale, parce que je crois à ce dispositif, oui.
D'accord, il y a 20 ans, on en parlait quasiment pas.
On n'en parlait quasiment pas, sauf qu'il y a 20 ans, moi je m'en souviens bien, le chômage était aussi important qu'aujourd'hui. Et il y a 20 ans, le gouvernement s'est dit, bah, dans le fond, un marché public, c'est des heures de travail pour une entreprise. Est-ce qu'on peut demander à l'entreprise de réserver une petite partie de ça au travail pour des gens qui sont chômeurs de longue durée. Et c'est de là que c'est parti, en 93, confirmé en 95. Je dis toujours, par humour, pour ne fâcher personne, ça a été inventé à droite, 93 Balladur, confirmé Juppé 95, et légalisé Jospin en 2001. Comme ça, il y en a pour tout le monde.
Voilà, donc cette clause d'insertion sociale dans les marchés publics, c'est ce que vous venez d'expliquer, c'est de rajouter des heures dans un projet, dans un chantier, des heures qui vont être effectuées par des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, c'est-à-dire à l'heure actuelle des bénéficiaires du RSA, des personnes en situation de handicap, toutes ces personnes-là.
Oui, l'idée c'est qu'on a, on le sait tous, le chômage c'est une forme de cancer, et quelqu'un qui est au chômage, après quelques mois, il perd confiance en lui. Et donc la clause, c'est pour des gens qui, quand même, il y a une condition, sont encore capables, je caricature un peu, mais d'arriver tous les jours et à l'heure, sont des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont fragilisés par le chômage, et grâce aux clauses sociales et grâce au rôle que jouent la facilitatrice ou les facilitateurs, l'entreprise a une obligation dans le marché, donc elle fait, c'est pragmatique, et le travail de Sabrina qui est là quelque part, c'est d'identifier ces personnes qu'elle pourra proposer aux entreprises qui juridiquement sont tenues de le faire sous peine de sanction.
Alors si depuis 95, c'est ça ?
Ouais.
Si depuis 95 ça existe, pourquoi les collectivités qui réalisent des appels d'offres ne font pas plus appel à cette clause d'insertion ?
Ah, c'est une vraie question, celle-là. Alors, pourquoi les collectivités ? Parce que, comme on dit, il y a des freins. Alors, les freins, ils sont où ? Ben, les freins, ils sont... Je ne pense pas que le frein...
Les élus locaux se mettent des freins, c'est ça ?
Les freins sont plutôt dans ce qu'on appelle, nous, les donneurs d'ordre, les collectivités, les techniciens. Les freins, ce n'est pas les entreprises. L'entreprise est assez pragmatique. Elle a une clause, bon, ça l'emmerde, mais s'il y a des Sabrina partout, elle joue le jeu. Donc, le problème, c'est, depuis 20 ans, c'est quand même changer la mentalité de ceux qui sont des techniciens, qui ont peur de l'insertion. Le mot insertion fait peur. On imagine des gens arriver, voilà. Donc,
qui ne savent pas se lever, comme vous l'avez dit.
Qui ne savent pas se lever, qui ont toute une série de... Et ce n'est pas vrai. À partir de là, je pense que le principal frein, c'est celui-là. Coluche avait une expression assez rigolote, je ne sais pas si vous en souvenez. Enfin, moi, je commence à être ancien. Il y en a un qui pleure, l'autre qui coupe les oignons, disait Coluche. Et parfois, je vais dans des collectivités, l'élu il me dit « moi, je voudrais bien, mais mon technicien, il me dit que ». Et puis le technicien, il me dit « ouais, moi, je voudrais bien, mais l'élu, il ne veut pas ». J'ai ça à surmonter comme difficulté.
C'est un manque d'information ?
C'est un manque d'information, oui. C'est un manque d'information, incontestablement. Moi, j'ai vu ce matin, j'ai beaucoup apprécié la réunion, parce que pour le coup, bravo à la Maison de l'Emploi. Le préfet était là, et non seulement le préfet était là, il a introduit, mais il est resté. Les élus sont restés. Et je pense que des réunions comme celle-ci, j'en fais beaucoup depuis 20 ans, mais sans vouloir flatter, je trouve qu'une réunion où des décideurs restent... Il faut que nos élus entendent la petite musique. Si un élu entend la petite musique de la clause, on a une chance que ça puisse marcher.
Est-ce que c'est pas en train de faire son biais par le fait de que beaucoup d'élus viennent justement aujourd'hui viennent du monde associatif, viennent de ces milieux-là?
Ça peut aider. Il faut encore que les élus, il faut que les élus arrivent. Le débat en France, dans nos collectivités, moi je crois, c'est d'arriver à ce que les élus ne laissent pas le pouvoir aux techniciens. Un élu, il est là pour donner un cap. Et donc, il faut absolument que l'élu prenne le cap et quelque part l'impose aux techniciens.
Oui, mais vous savez qu'en France, c'est la technique qui prime. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué qu'un élu, on ne peut pas lui demander d'être à la fois élu, ouais, technicien. Et quand on lui dit « Ah oui, mais non, mais pour mettre en place cette cause, ça veut dire ça, que c'est trop de travail, etc. etc. » Voilà. Et du coup, ça freine.
Non. D'où l'importance d'avoir un juriste qui vient peut-être, mais moi j'ai une qualité, je fais des clauses, je suis juriste et j'entends démontrer que le droit n'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le dire. Et je dis aux élus, le rapport entre un élu et un technicien, le bon rapport, c'est l'élu qui dit au technicien, monsieur le technicien, quels sont mes choix, quelles sont mes possibilités et quels sont mes risques. Si l'élu tient ce discours-là, le technicien peut se libérer. Si l'élu dit au technicien, je veux pas d'emmerdement, dans ce cas-là, on a un technicien qui verrouille tout. Et le problème en France du droit des marchés, il est là. C'est que le droit des marchés, on a une pratique ayatollesque, comme je dis, du droit des marchés. On complique tout à ravir, on a peur, alors qu'effectivement, les choses sont plus simples qu'on ne veut bien le dire. Encore faut-il... J'ai expliqué ce matin, par exemple, comment une dame, en Nord-Pas-de-Calais, en 1995, alors que je débutais, qui a mis une clause sociale dans des marchés d'attribution de lycée, elle a eu du courage. La France a été déférée devant une cour de justice pour violation du traité de Rome, elle a tenu bon, elle est allée jusqu'au bout, et 5 ans après, le juge européen lui a donné raison. Elle a été courageuse.
5 ans après, ouais.
Oui, le droit, vous savez bien que les décisions de justice, on le voit tous les jours, sont un peu longues. Ouais.
Quels sont les secteurs d'activité qui peuvent être concernés par cette clause
Alors, ce matin, j'ai vraiment insisté là-dessus parce que on a eu en France en 2004. Alors, ça a pas en Lozère, effectivement, ça a pas beaucoup été présent. On a eu ce qu'on appelle l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui a rendu obligatoire les clauses dans les marchés de bâtiments. Le problème, alors, on peut bien sûr closer du BTP. Et le problème en France, c'est qu'on a tendance à ne closer, comme on dit, pardon du terme, mais on ne fait que ça. Conséquence directe, ça ne profite qu'à des hommes. On peut closer les marchés nettoyage, d'espaces verts. On a commencé chez moi à closer des marchés de transport. Tous les marchés de transport des collégiens ont des clauses sociales. On a commencé à closer des marchés d'architectes, des marchés de bureaux d'études. Il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, le principal enjeu des clauses pour la Maison de l'Emploi, c'est d'arriver justement à se diversifier. Il faut un peu lâcher les baskets du BTP. Il n'y a pas que, et c'est ce que j'ai dit ce matin au président, au représentant de la fédération départementale du BTP, on peut espace vert, gardiennage, restauration.
C'est peut-être un peu plus facile, non, sur ce, enfin, en tout cas pour démarrer.
C'est ce qui
pour
vient à l'esprit pour démarrer. Le problème, c'est qu'on démarre là-dessus, mais on y reste. Alors aujourd'hui, la conséquence directe, c'est que dans les stats nationales, 95% des bénéficiaires sont des hommes, comme s'il n'y avait pas de femmes au chômage.
Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le BTP, par contre, c'est vrai.
Non, il y en a dans les métiers intermédiaires. Mais sur les chantiers, pour des raisons économiques, ouais, d'ailleurs, ouais. Hein, parce que si je prends une femme sur un chantier, vous le savez, je dois dédoubler toutes mes installations sanitaires. Ça coûte cher. Et c'est un frein terrible à l'emploi des femmes sur les chantiers.
Ah ouais, d'accord.
Je dois systématiquement dédoubler toutes mes installations de toilettes, sanitaires, vestiaires. Donc forcément, 95% restent des hommes, et d'où l'importance d'aller chercher d'autres types d'activités. Là-dessus, j'ai vraiment insisté ce matin. On a commencé à le faire, hein, autour de vous. À Toulouse, par exemple, on a closé des marchés d'architectes. Dans le Pas-de-Calais, on close des transports urbains, on close la restauration alimentaire.
Est-ce qu'il y a un avantage à faire cette clause pour un élu local ?
Moi, je trouve qu'il y a un avantage pour un élu et puis pour nous. On finance en France, avec les impôts locaux, avec les impôts nationaux, toute une série d'organismes à qui on dit « aider ceux qui n'ont pas d'emploi ». On appelle ça Pôle emploi, des missions locales, etc., etc. Tous ces organismes-là ont comme objectif de trouver des solutions à des gens qui sont en difficulté. En même temps, ceux qui financent tout ça passent des marchés. Donc l'intérêt, c'est de rendre plus efficace l'argent public. Ça ne va pas tout résoudre, la clause, hein, ça se saurait. Mais tant qu'à faire, une clause sociale dans un marché, c'est un contrat de travail pour quelqu'un. Et si c'est un contrat de travail pour quelqu'un, comme en même temps Sabrina est entourée de Pôle emploi, il y a toute une série de services qui sont là pour l'aider. Donc on fait un repérage de candidats. Et je répète surtout, on permet à des gens qui ont envie de bosser et qui n'ont plus confiance. Un chef d'entreprise dit facilement, voilà, je, dans le fond, la personne que vous m'avez proposée, je ne l'aurais peut-être pas recrutée si j'avais été tout seul. Si je la recrute, c'est que je vous fais confiance. Et Sabrina va jouer un rôle de facilitatrice.
Est-ce que ce n'est pas une solution pour tous ces emplois non pourvus en France, ces 300 000 emplois non pourvus en France ? Est-ce que ça ne peut pas répondre en partie à ça ?
Ça pourrait, d'autant plus que j'ai vécu une expérience, moi, dans mon département, je répète, j'habite le Pas-de-Calais, quand on a rencontré... alors, il faut respecter les règles du jeu. On a rencontré les transporteurs routiers, on leur a dit, de car, on leur a dit, voilà, dans un an, il y aura une clause. On les a prévenus. Et pendant un an, on a bossé avec eux. Et en bossant avec eux, on a identifié leurs besoins, leurs contraintes, et quelque part, oui, on est capable de mieux se préparer au type d'emploi qu'ils souhaitent. Incontestablement, la clause est un formidable outil de rapprochement entre les entreprises et nos élus et les techniciens qui bossent avec ces élus, incontestablement.
Et en fait, Frédéric Dieumortier, c'est ça le travail de la Maison de l'Emploi, c'est travailler en amont, travailler pendant, travailler après, finalement, pour
permettre... que vous êtes financier, vous parlez d'État, donc...
on est financier, on est un service public, effectivement, et Patrick Loquet le rappelait ce matin, c'était important, je crois, que cette clause soit pilotée par du service public pour que justement il y ait ces, à la fois les garde-fous mais aussi ce partenariat qui se crée et tout ce lien et ces parcours qu'on puisse organiser. Effectivement, la Maison de l'Emploi, on va avoir avec le rôle de facilitateur de Sabrina, on va pouvoir jouer ce rôle de mise en logique, de mise en parcours à la fois en aidant les collectivités, en les rassurant sur la dimension juridique, on l'a vu, il faut rassurer l'élu, il faut rassurer les services techniques, c'est facile, c'est possible de rajouter cette clause dans un marché, ce n'est pas compliqué, et on va les aider à rédiger ce marché-là. Ensuite, on va aller rencontrer l'entreprise, on va l'aider. Là aussi, l'idée, c'est pas de mettre l'entreprise en difficulté, c'est de l'accompagner et de lui dire comment on va, avec lui, répondre au mieux et de la meilleure manière possible à cette dimension d'insertion. Et puis le dernier volet, c'est effectivement avec le service public de l'emploi. Patrick Loquet parlait effectivement de Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, et toutes les structures qui travaillent, je pense aux chantiers d'insertion, aux entreprises qui travaillent dans... Tout ça, ce sont des personnes qui sont au contact du public et qui, à un moment donné, effectivement, vont pouvoir bénéficier de ce tremplin dans l'entreprise, et ce levier va vraiment créer et donner une chance à quelqu'un qui l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cette petite obligation. Et il n'est pas, dans le peu d'expérience qu'on a en Lozère, parce que malheureusement c'est encore pas assez développé, on a vu des clauses d'insertion qui ont démarré avec de l'intérim, par exemple, et qui se sont conclues avec des CDI. Parce qu'effectivement, quand on donne sa chance à quelqu'un, quand on le remet en confiance, eh ben, il y a une montée en compétences immédiate et l'entreprise est gagnante. Et du coup, tout le monde est gagnant. L'idée, c'est que on soit sur du gagnant-gagnant.
Donc c'est à la fois une clause, on va dire, économique, mais aussi une clause sociale, finalement.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en principe, tous les acheteurs publics... Il y a un code des marchés en France qui s'impose à tout le monde. Et le code dit, dans un article, que quand j'achète, je dois acheter en conciliant l'économie, l'environnement et le social. On est passé, vous le savez, dans l'ère du développement durable et un achat public, il y a un impératif dans le code, doit faire en sorte de concilier les trois. Un volet social. Aujourd'hui, le grand changement par rapport à l'époque où je commençais mes études de droit, à l'époque, le marché était qu'un acte économique. Et le reste, peu importe. Aujourd'hui, l'acte économique doit s'accompagner d'un volet social et d'un volet environnemental. C'est pas gagné, hein. La commande publique en France,
c'est ce que j'allais dire.
Gagné, ouais, la commande publique en France, on est optimiste, il faut y croire. Il y a 90 milliards d'euros par an. On est à 4 milliards de closés, donc le chemin est encore long, mais. Voilà, des réunions comme
ça. 86 milliards pour Sabrina.
Il y a un gros potentiel, ça. Ce qu'il faut voir, c'est le potentiel énorme qu'il y a.
Il y a un potentiel énorme. Vous prenez l'hôpital, vous prenez dans votre département, il y a des MAPAS, des MAPAS de tourisme, il y a des tas de marchés. Alors, également, ça permet aussi, il y a un impact, on n'en a pas parlé, c'est la préférence locale. Moi, je suis un juriste qui choque mes collègues en disant « Moi, la préférence locale ne me fait pas peur ». Je pense qu'une clause sociale peut valoriser l'offre locale. Et il y a des endroits, par exemple, pas très loin de chez vous.
Justifier,
ben oui, par exemple, quand les Toulousains ont vu les Espagnols gagner le tramway, depuis ce temps-là, les entreprises nous disent « mais faites de la clause sociale !» Comme ça, nous allons récupérer des parts de marché. Donc, ça peut aussi faire ça. Et encore une fois, ça peut aussi... Moi, j'ai des témoignages de chez les entreprises...
Sauf si on a des Espagnols qui sont... qui sont en instance, c'est ça. Voilà.
Pourquoi on ne légifère pas, finalement, pour obliger les entreprises à insérer une clause sociale ? C'est bien de préconiser, mais...
Quelle belle question.
C'est arrivé une fois dans la loi française. Alors moi, je suis valenciennois, j'habite le Pas-de-Calais, ma fac est à Valenciennes, et dans les années 2002-2003, j'avais un député maire qui s'appelait M. Borloo, et quand il a été nommé ministre, il a piloté le dossier de l'Agence nationale de rénovation urbaine. On avait commencé à Valenciennes à faire des clauses et il a rendu la clause obligatoire dans l'ANRU. Voilà. Donc la loi, là, pour le coup, avait dit à tous les bailleurs sociaux, je vais vous aider à financer vos logements sociaux, mais vous me ferez de la clause. Et donc ça s'est déjà fait. Maintenant, ça s'est...
Oui, voilà. C'est pas répressif, c'est incitatif en général.
C'est l'idée. Le problème, c'est que si on a du mal... C'est assez curieux. Hein. Quand c'est obligatoire, les gens le font.
Et quand c'est facultatif. Alors,
j'ai des tas d'endroits en France où on le fait là où c'est obligatoire, dans l'ANRU, et sur les propres marchés, on ne le fait pas. C'est tout à fait étonnant, la France, pour ça. Et voilà. Et donc, il y a tout un travail. Ça monte en puissance. Hein. Le métier qu'exerce Sabrina, quand j'ai commencé, il y avait zéro personne. Il y a 350 personnes qui, aujourd'hui, en France, font le métier de facilitateur. Hein, ce métier, on a parlé tout à l'heure. Pourquoi facilitateur ? Parce que c'est... Voilà, c'est la question qu'on n'a pas abordée, mais Sabrina en parlera. Elle doit faciliter. La clause, c'est des élus, des techniciens, des entreprises, des organismes de prescription, des usagers. Il y a plein de monde. Il faut que quelqu'un mette tout ça en synergie.
Moi, je connaissais les agitateurs, mais les facilitateurs...
Alors, on peut être, Sabrina, en l'occurrence, agitateur et facilitateur.
Alors, avant d'être facilitateur, c'est ça, il faut être agitateur,
un
Sabrina.
Un petit peu, oui, un petit
Donc,
peu.
Donc, quel est ce métier, finalement ?
Le métier, c'est d'être déjà au contact des collectivités à la fois territoriales et locales, d'être au contact des entreprises et de bien connaître, à mon avis, le territoire sur lequel on exerce ce métier. Et ensuite, avoir tout un travail de collaboration avec tous les acteurs de l'emploi, qui connaissent très bien les publics qui sont en demande d'emploi. Et notre rôle, et mon rôle plus particulièrement, mais avec Frédéric un petit peu aussi, c'est de coordonner tout ça et d'être surtout l'unique interface au milieu de ce dispositif. Voilà, on
Donc
veut être à la fois.
Qui, en fait ?
J'ai rencontré l'ensemble des communautés de communes du département, par exemple, l'ensemble des communes, du moins les plus grandes communes du département, les chambres consulaires, bien sûr, la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat. J'ai également rencontré la Fédération du bâtiment, la CAPEB, tous les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, les structures d'intérim d'insertion. Voilà, donc vraiment tout un travail de communication autour de la clause.
Parce qu'il y a beaucoup de formation aussi, non ?
Pardon ?
Les organismes de formation ?
Les organismes de formation, pas encore.
Ils arrivent dans un deuxième temps, effectivement, hein, voilà. Quand on aura besoin d'anticiper sur les besoins, on travaillera avec eux.
Voilà. Donc voilà, tout un travail d'information, parce que beaucoup d'idées reçues sur la clause, donc travail de... Et puis trouver aussi des pistes communes, travailler ensemble, je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est arriver à travailler ensemble autour de la clause.
Là où Sabrina a un rôle intéressant, c'est qu'on a développé la notion de guichet unique. Une entreprise qui va travailler en amende, elle peut avoir un marché public avec la mairie, un marché public avec un bailleur, un marché public avec le conseil général. Trois marchés closés, l'entreprise est satisfaite par le simple fait qu'on a une seule personne qui va pouvoir additionner et globaliser les ordres. C'est aussi une des raisons de la réussite là où ça marche. Donc il est important de voir qu'elle est l'entrée unique et que l'entreprise aura un interlocuteur capable de globaliser les heures et de lui faire des propositions. Ça, c'est important de le rappeler.
On a une vision nationale de cette clause, savoir en proportion sur l'ensemble des marchés publics combien sont impactés ?
On a un décompte statistique de l'État. Les collectivités qui passent des marchés ont l'obligation de remonter tous leurs marchés de 90 000 euros en statistiques nationales. Et les statistiques de l'État laissent apparaître un pourcentage de 4,3%. 4 ou 5 milliards sur 80, 90 milliards. Donc ça reste peu, dit comme ça. Mais quand j'ai commencé...
Mais en même temps, pardon de vous couper, mais...
Non.
Est-ce que c'est pas plus facile sur des petits marchés, finalement, à 30 ou 40 000 euros, plutôt que... Est-ce qu'il n'y a pas moins de freins, finalement, en se disant, ben là, j'ai un marché de 300 ou 400 millions d'euros. Est-ce que c'est pas plus compliqué de s'engager sur l'insertion que sur des petits marchés à 30 ou 40 000 euros et du coup, qui ne sont pas comptabilisés aujourd'hui ?
Non, ils le sont indirectement, hein, parce qu'on a, indépendamment des statistiques de l'État, on a un organisme national qui fédère tous les facilitateurs. Et donc, on a un logiciel qui nous permet de comptabiliser toutes les heures. Donc, on est à 7 millions, au dernier recensement 2013, on arrive à 7 300 000 heures, je crois, qui ont été closées dans le bilan national. On close aussi bien des grands marchés que des petits marchés. Ce matin, je racontais, là, moi, j'ai un marché de 700 millions à Calais. On est en train de closer l'avant-port de Calais. J'ai 150 000 heures d'insertion, donc on n'est pas sur la même thématique. Quand on a des très gros volumes, on a les très gros, vous voyez que Vinci et Fage, ils résonnent essentiellement en termes de contrats de pro, de temps plein. Il faut qu'on arrive à faire les deux, parce que moi je me bats aussi contre une certaine tendance dans certaines grandes villes à ne vouloir closer que les gros marchés, parce que si on a des gros volumes, si on a par exemple 10 000 heures, on a 8 équivalents temps plein. Pour trouver 8 personnes, on en sélectionne 40 et on prend à chaque fois les 10 meilleurs, quoi. Moi, j'aime bien jouer sur les deux volumes. Il faut donner un marché avec 300 heures permet à quelqu'un de se tester. Donc, il faut aller sur les petits volumes et en même temps essayer de faire des gros volumes. Les petits ruisseaux, si demain vous arrivez en Lozère à faire en sorte que le conseil régional, le conseil général, l'hôpital, la mairie, etc., on va avoir un volume qui va monter en puissance. Mais je crois qu'il faut garder à la clause la dimension humaine du... Sabrina, pendant des mois et des mois, je crois, va connaître les personnes, elle va les voir, elle va les... Et cette clause a cette dimension humaine qui est importante. Moi, j'aime bien les facilitateurs quand, voilà, il y a toujours une étincelle dans l'œil, ils ont réussi à trouver une solution pour quelqu'un. Pôle emploi, c'est compliqué. Quand on sait qu'à Pôle emploi, un conseiller a 120 personnes ou 80, etc., ça devient dur de faire ce métier. Dans les clauses, on arrive encore à avoir la relation humaine, quoi, qui joue et qui est importante.
3-4% donc au niveau national. Alors vous alliez dire, quand j'ai commencé, c'était bien moindre.
Bien moindre.
J'imagine. Voilà. En Lozère, on en est où, Sabrina? Ou peut-être même au niveau du Languedoc, je ne sais pas si tu as des chiffres.
Au niveau départemental, on s'aperçoit qu'il y a eu un très gros chantier il y a maintenant
4 ans,
voilà, sur une réfection des appartements. La clause a été portée donc par un bailleur social qui est la SHLM. Donc une rénovation de nombreux appartements. Ça a concerné donc la clause a concerné 8 entreprises et ça a représenté 8 860 heures d'insertion. Donc en termes de travail, ça représente 22 mois de travail.
Ouais, voilà. C'est énorme.
Aujourd'hui, c'est le plus gros chantier que l'on ait closé sur le département. Il y a eu d'autres petits chantiers sur d'autres petites communes.
À Saint-Élimi, notamment, oui.
Saint-Élimi, c'était un chantier d'insertion.
Voilà.
On a eu sur Saint-Andéol de Clergomor, que j'aime bien citer, parce que c'est aussi des petites communes qui font des petits ouvrages. Et ça répond aussi en partie à ta question. Est-ce qu'il y a des grands chantiers, des petits chantiers? Il y a tout est possible. Et à Saint-Andéol de Clergomor, ils ont refait un pont en pierre sèche qui a été closé et qui a aussi donné la possibilité à quelqu'un sur 300 heures de repartir. Et il y a une belle réussite technique et sociale.
Parce qu'on parle, oui, on parle des clauses d'insertion, mais il y a aussi les chantiers d'insertion qui peuvent être des chantiers faits par des particuliers, hein,
non,
auprès d'entreprises locales, non? Je pense à la réfection de murs en pierre sèche.
C'est fait par des champs.
Alors, tu nous embrouilles sur une... la réflexion qui a été faite sur Mende, par exemple? Non, sur...
Non,
sur
Florac.
Sur Florac, les chantiers en pierre sèche. Sont pas faits, effectivement, là, pour le coup, par des chantiers d'insertion. Ce sont des particuliers qui ont pu travailler, effectivement, pour lesquels on aurait pu imaginer de la clause d'insertion. Je pense d'ailleurs à l'Espinasse, où il y a un gros chantier, et où je pense qu'on va réussir, il y aura une clause d'insertion. Par contre, les chantiers d'insertion sont particuliers. Ce matin, c'était expliqué un petit peu par Patrick. Alors certes, c'était toujours un petit peu caricatural, mais pour que tout le monde comprenne, dans le cadre des clauses d'insertion, on s'adresse à un public qui est capable d'avoir sa place dans l'entreprise. Donc, un minimum, par exemple, d'être ponctuel, d'être là tous les matins et d'être dans une dynamique de travail. On a, pour certaines personnes, cette dynamique qui est cassée et pour laquelle il est même difficile, effectivement, de se présenter régulièrement à son poste de travail. Et là, donc, on est en amont de la question de la clause. Et là, on est plutôt sur des chantiers d'insertion, effectivement. Donc, ce sont plutôt des associations, enfin, un travail qui est porté par voilà, porté par des secteurs associatifs, et où on propose à des personnes de se remettre dans une dynamique d'emploi, de réapprendre la dimension du travail. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que un chantier d'insertion, par exemple, qui pourrait durer 6 mois pour une personne, est un vrai tremplin pour pouvoir ensuite se positionner, grâce à une clause d'insertion, dans une entreprise dite classique. Donc effectivement, ce sont des parcours qui sont intéressants et qui montrent à quel point, là, pour le coup, voilà, le rôle de facilitateur,
il y a
un travail de réseau, de parcours, de cohésion par rapport à tout ça.
Il y a des chantiers prévus, Sabrina, prochainement, avec des clauses d'insertion ?
Des projets en cours qui arrivent notamment pour l'année 2015 avec, sur le secteur de Langogne et la communauté de communes du Haut-Allier, l'extension du centre culturel. Où donc nous avons conventionné un partenariat et où la clause est formalisée. Ça concernera donc de l'eau et 300 heures d'insertion. Et ensuite, il y aura des gros chantiers, notamment aussi un partenariat avec la BIR Massif Central, pour lesquels il va y avoir de nombreux travaux de réfection de routes sur les grands axes du département. Puis je suis convaincue que la matinée de ce matin nous laisse entrevoir aussi de beaux projets pour l'année prochaine.
Bien sûr.
Oui, alors, il y a d'ailleurs le monsieur le préfet qui a fait une annonce intéressante. Et il a l'idée, hein, de, il s'interrogeait ce matin publiquement sur l'idée de sur des choses un peu subventionnées avec fonds d'État.
Donc on a dans nos territoires ruraux ce qu'on appelle le DETR. C'est des subventions données aux collectivités territoriales pour les aider à faire de l'investissement. Bien. Et le préfet a effectivement émis cette idée que les collectivités qui étaient subventionnées avec de l'argent public pour pouvoir être aidés dans leur investissement, seraient fort invités à closer les marchés pour lesquels il y a eu des subventions. Donc ça, c'est quelque chose d'assez innovant, je pense, sur nos territoires, et qui va très certainement, effectivement, booster la dimension. Et effectivement, Nicolas, tu le disais, il y a le contournement de la ville de Mende, qui sera un très, très gros marché, et qui sera, d'ores et déjà, on le sait, closé. On n'a plus qu'à attendre maintenant que le chantier démarre. Mais
la convention est passée
en... La convention est passée, donc on est sûr qu'il y aura de l'insertion sur ce chantier. Voilà, il suffit qu'il commence.
On a la main d'œuvre pour répondre à ces chantiers d'insertion. C'est qu'on est un des départements qui a un des plus faibles taux de chômage en Lozère.
Tout à fait. Mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de vouloir mettre des clauses d'insertion sur tous nos marchés si ça ne doit pas répondre à un public. Alors certes, on a un taux de chômage plutôt faible en Lozère et on est fiers et tant mieux de ce taux-là. Pour autant, malheureusement, c'est un taux de chômage qui augmente aussi un petit peu partout et on n'échappe pas à cette courbe et on n'échappe pas aussi à une réalité qui est peut-être un peu plus liée à notre territoire rural, à des publics qui sont chômeurs, demandeurs d'emploi de longue durée. Pour lequel, effectivement, ça fait 1 an, voire 2 ans, qu'ils sont demandeurs d'emploi. Et là, on s'aperçoit, notamment en Lozère, qu'on a une population relativement importante, éloignée de l'emploi depuis très longtemps, et pour lequel, effectivement, le retour dans l'entreprise est compliqué. Et là, bah, typiquement, la clause correspond à ce public et va complètement être en adéquation avec ces personnes qui, s'il n'y a pas ce petit levier, vont avoir des difficultés pour pouvoir re-rentrer dans l'entreprise. Donc oui, on a des personnes qui seront intéressées par ce levier. Et puis, bah, ça fait partie, ça aussi, de l'intelligence de travail de la Maison d'Emploi et de Sabrina. C'est-à-dire qu'on ne va pas closer les marchés s'il n'y a pas le public qui correspond. Donc là aussi, il y a un travail d'intelligence à mener avec les entreprises, avec les collectivités, en disant bah, ce lot-là, au regard de la population qu'on a aujourd'hui au chômage, il est plus que pertinent de le closer. Par contre, alors, effectivement, il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Peut-être une question technique, c'est-à-dire que là, tu parles de lot, c'est-à-dire qu'on sur un chantier, hein, sur un appel d'offres, puisque c'est décliné en plusieurs lots, il y a la couverture, par exemple, enfin, si on parle du bâtiment, la couverture, tout ce qui est... Groseur, etc.
Électricité, plomberie.
On n'est pas obligé de closer en fait sur l'ensemble. Non. On peut closer que sur des parties.
Absolument. Ce qui est très important, ça, parce que il y a des lots qui sont pas pertinents de closer. Alors, je donne souvent cet exemple-là et il est peut-être d'ailleurs pas vrai. Il faudrait que je vérifie. Mais le lot ascension des ascenseurs. J'ai du mal à le dire. Excusez-moi.
Ascensionnel.
Ascensoriste. pour mettre en place des ascenseurs, ça demande une technicité relativement importante. Et il y a finalement peu de main-d'œuvre sur ce lot-là. Il n'est pas forcément pertinent que ce lot-là soit closé. Alors, ça reste à vérifier.
Ça, hein, ça reste à vérifier parce que l'anecdote est... Je disais encore ça sociale. Il n'y a pas trop longtemps et je ne dis plus. Pourquoi ? Parce que je disais ça, parce que j'en étais convaincu.
Et c'est parce que j'étais formé par Patrick, voilà. Et à l'époque, il me donnait
et
cet
alors,
exemple.
Et alors, je vais en Poitou-Charentes et je rencontre le technicien du conseil régional Poitou-Charentes, et un ancien de chez Bouygues, converti chef de projet close, et il me dit, mais pourquoi tu me dis ça ? Ben, je lui dis, écoute, moi, alors, comme toi, on me l'a dit, mais il me dit, non, c'est pas vrai. Il dit, moi, je vais closer le lot. Alors, il faut bien voir qu'il est région, lui, hein, donc il a une force d'action plus importante que toi, Amande. Il me dit, non, c'est pas vrai. On va le closer, tu vas voir, ça va marcher. Et ça a marché. Et il m'a fait découvrir que les ascensoristes, on a 3-4 grosses boîtes qui se partagent tout. Il n'y a pas d'école d'ascensoristes. Toute la formation est sur le tas. Et en fait, il a réussi à me démontrer, preuve à l'appui. Et donc, mais lui, il était conseil régional, avec un potentiel de lycée important, donc avec un marché d'ascensoristes important. Il avait une pression. Et les gars ne voulaient pas. Ils ont tous réussi à nous faire croire pendant des années qu'ils ne pouvaient pas. Et grâce à ce technicien de Poitou-Charentes, il s'appelle Jean-Claude,
on a réussi. Comme quoi, il y a un bon technicien. Hein.
Hein comme quoi, il faut toujours se garder des... Et il a raison. Oui, hein, moi, j'ai répété comme lui. Et il reprenait cet exemple. Mais depuis que j'ai rencontré ce... Voilà, il m'a fait... Donc vraiment, quand on a commencé en 2002-2003, je disais ce matin à vos élus, je closais que le gros œuvre, quoi. Oh là là, l'insertion, la plomberie, mais tout va fuir, l'électricité, tout va sauter.
Oui, c'est ça.
Et donc, y a, voilà, et au fil du temps, on a réussi à démontrer. Et c'est vrai que l'ascenseur était jusqu'à pas longtemps encore une forteresse que j'ai réussi à franchir grâce
alors,
à...
Alors, je prendrai plus cet exemple.
Ouais, il faut que tu trouves un autre exemple, quoi.
Non, non, mais il y a encore une
donc
fois.
Il n'y a pas de chantier à ne pas closer.
Par contre, là où la raison, c'est qu'effectivement, si en amont, on se dit non, là, on n'y va pas parce que c'est casse-gueule, effectivement, il faut anticiper. Effectivement, tu as entièrement raison.
Mais c'est peut-être
raison,
plus sur l'analyse avec oui. les travailleurs sociaux, sur les ça. Besoins, c'est ça.
Sur les besoins, tenir, les publics, faut tenir les publics. Compétences.
Et même, il y a un débat très clair. Parfois, on a un nombre d'heures et on se rend compte que le marché ne dure pas longtemps. Et si le marché est trop court, en travaux publics, par exemple, si vous avez déjà vu des machines qui mettent du le macadam, là,
du noir,
parfois, ça va très vite. Et même si on dégage des heures, on n'a pas le temps de les faire. Donc, il faut aussi tenir compte de la réalisation et de la durée du marché. C'est un métier
À part entière. Une bonne analyse du territoire, des gens, des besoins.
De l'activité, des
collectivités, des ressources. Voilà.
Et on met tout ça en synergie, et moi j'ai envie de rappeler, je ne sais pas si on va s'arrêter, mais qu'il faut simplement que tous ceux qui ont un travail se disent qu'il y en a qui n'en ont pas, et dans leur quotidien, essayer de faire une petite place à la clause d'insertion. Voilà.
Ouais. Et Sabrina va passer aux 65 heures par semaine pour faire tout ce boulot.
Avec joie.
C'est le nouveau régime de la Lozère.
Voilà, alors n'hésitez pas à joindre la Maison de l'Emploi pour avoir davantage de renseignements, peut-être un contact,
un numéro de téléphone. Sabrina.
Alors, la Maison de l'Emploi, vous pouvez nous joindre au 04 66 65 60 73 ou bien par mail, donc avec comme interlocuteur Frédéric Dumortier, fdumortier@mdecs48.fr ou moi-même, sarnal@mdecs48.fr.
Et vous nous trouvez sur notre site internet aussi, si vous avez oublié tout ça.
Voilà, ou vous pouvez appeler aussi ici à la radio, on vous redonnera toutes ces coordonnées, le magazine étant rediffusé.
Oui, le jeudi à 18h10 et le samedi à 11h.
Voilà. On va passer à la suite, donc, à notre agenda.
À notre agenda culturel de la semaine.
Voilà, on vous remercie. Merci pour toutes ces informations. C'est très, très important. Et voilà, on se fera aussi un petit peu l'écho de tout ça. On espère peut-être faire un nouveau magazine autour de ça pour voir si les choses avancent, parce que c'est bien de battre le fer et puis faire que nos amis élus puissent prendre en considération toutes ces clauses et toutes ces réformes qui s'accompagnent après d'insertion et un peu moins de chômeurs.
Merci
à tous et bonne semaine.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48 FM.
Agenda culturel du mardi 21 au lundi 27 octobre. On commence mardi 21 avec du cinéma au ciné-théâtre, avec le film Drôle de créature qui s'adresse aux 3-6 ans. On croise parfois de bien étranges créatures, sans penser forcément que ce n'est pas facile d'être différent. 7 courts-métrages sur le thème de la différence. Ce sera à 18h20 pour un tarif de 6,80€, 5,80€ en tarif réduit et de 4€ pour les jeunes de moins de 14 ans. Et ce sera proposé par le ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher.
Mercredi 22 octobre à la Maison Colucci, une conférence. Exposition débat sur les fouilles archéologiques de la A75 dans le secteur de Banassac par Daniel Maury et par Madame Hélène Bouchard-Seguin, présidente de l'association Pierre et Sigillet. Ce sera 17h30 et c'est organisé par le Centre d'études et de recherche Benjamin Bardi.
Samedi 25 octobre, à la salle polyvalente de Marvejol, de la musique avec un concert blues de Jérôme Pietri. Ce sera à 20h30 pour un tarif de 8€ et c'est proposé par l'association des Voies Vertes en Gévaudan.
Et enfin, c'est de fin de semaine, donc le samedi 25 octobre, au Théâtre de Mende, donc une soirée concert avec Porte, Marvin Band et Laïus. Donc le concert de Porte d'abord, donc Volteface les soutient depuis la création de leur première mouture de groupe fin 2002. Le line-up actuel existe depuis la refondation du trio survenu en 2006. Ces trois Lausériens ne lâcheront rien au fil des ans. Aucune concession sur ce qu'ils font parce qu'ils le font par plaisir et pour un public fidèle qui les accompagne depuis très longtemps. Leurs compositions révèlent des structures complexes avec un côté lancinant et hypnotique et des rythmiques tantôt lourdes et puissantes, tantôt alambiquées. Deuxième partie de soirée, Marvin Band. Donc c'est un groupe de la mouvance indé montpellienne. Là aussi un trio, dans la même veine que Porde. Ils sont jusqu'au boutiste sur scène, généreux, passionnés forcément. Laïus est un power trio montpellierain également. Une formation donc qui sera influencée par l'atmosphère des disques. L'énergie live du groupe et artistes comme The Melvins, Jeff Buckley ou Black Sabbath, ou encore Kim Crimson, voilà, dans les années 75. Tu connaissais Marie, non ?
Pas Kim Crimson.
Voilà, c'est très très connu, je te ferai écouter. Ce sera 21h donc au Théâtre Municipal de Mende et c'est organisé par l'association Volteface. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.